8h46, vous le savez, c'est un hiver très particulier, point de vue conditions météorologiques. Et pour circuler également, j'ai rarement vu des changements aussi drastiques en l'espace de peu de temps. Vous allez le constater ce matin d'ailleurs, là, en raison des précipitations même pas des précipitations. Hier, on a eu un dégel, c'était doux. Il a fait froid, là, il vente, ça donne des chaussées glissantes. Hier, les deux ponts de Québec ont été fermés pour déglaçage pendant une certaine période. Des carambolages, on a parlé des accidents mortels qui sont survenus tout à l'heure avec Maxime Laniel. Gilles Payet de Transport Québec, salut Gilles.
Oui, bonjour Mathieu.
C'est un drôle d'hiver. Hein?
C'est un hiver exigeant.
Juste un petit clin d'œil sur les ponts à Québec. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire.
Ça arrive régulièrement, mais pas aussi souvent depuis vraiment longtemps.
Combien de fois depuis le début de l'hiver?
On m'a dit 6 fois hier.
6 fois?
Oui. De voir déglacer comme ça, non?
Mais c'est des blocs immenses là, qui se détachent de la structure.
Ben, avec les vents, parce qu'il faut, il y a un effet de couloir de vent. Là. Si vous connaissez Québec le moindrement, ouais. Vous savez que dans le coin du... Moi, j'ai traversé le pont de Québec à vélo et je peux vous dire qu'en plein été, on dirait que c'est une autre saison tellement c'est frais parce qu'il vente. Il vente vraiment beaucoup. Alors, si vous avez du gel, dégel, verglas, pas verglas, puis le vent, comme hier, parce que les vents étaient particulièrement violents, ben là, vous avez des conditions où il faut fermer des voies, déglacer. Heureusement, le train qui passe sur le vieux pont aide à faire vibrer la structure et faire tomber un peu de glace.
OK. Les carambolages, l'autoroute 30, malheureusement, cette semaine, encore une fois. Je voyais des images de la 15 dans le bout de Saint-Jérôme hier, une espèce de blizzard de neige. Comment vous y prenez pour faire avec des conditions comme celle-là, mis à part faire des patrouilles de retenue, là, qu'est-ce qui peut être fait?
Bien, on passe plus souvent, c'est-à-dire ouais. Que le chasse-neige passe plus souvent. Mais évidemment, il y a des limites. On peut pas ramasser la neige avant qu'elle tombe.
Ouais.
Ça serait vraiment merveilleux si on pouvait faire ça, mais on peut pas faire ça. Alors évidemment, c'est intense. Mais ça, on les voit venir, ces choses-là. On a des stations météo-routières, nous autres, juste à nous. Évidemment, on a les radars d'Environnement Canada, tout ça, mais on a des stations météo routières fixes, on a des stations météo-routières mobiles, on a nos surveillants qui regardent le tout, qui repassent derrière les déneigeuses. Tout ça est un grand balai parce que nos camions, ils sont géolocalisés, vous savez.
Okay.
On sait où sont les déneigeuses en règle générale, si elles sont en mode grattage ou en mode épandage, on sait à peu près où elles se trouvent, on sait bien où elles se trouvent. Alors, prévoir un carambolage, nous, on fait vraiment le maximum, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, les usagers de la route doivent faire le maximum aussi. Vous savez, l'été, il y en a des carambolages. C'est pas à cause de la neige, là. C'est parce que les gens adaptent pas leur conduite, ne regardent pas assez loin, vont trop vite. Vous savez, quand on dit adapter sa conduite, ça veut dire être capable de s'arrêter dans la partie qu'on peut voir. Et en hiver, ben il faut se méfier de ça. Parce que apprendre à conduire l'hiver, on dirait que tout le monde réapprend d'ailleurs à chaque mois de novembre. Vous remarquez qu'il y a des accidents, des petits accrochages, des choses comme ça. Alors, on fait vraiment le maximum, mais il faut croire que quand on fait un beau bout de route, ben les gens laissent tomber leur vigilance, puis après ça, ben il arrive quelque chose de spontané qu'on peut pas contrôler.
De ce qu'on t'a raconté, je comprends que t'es pas sur la route avec une saleuse non plus, là, mais... Des employés qui t'ont raconté, c'est quoi la pire condition, la pire espèce de conjoncture de conditions météorologiques pour rendre inefficace? Est-ce que c'est la pluie verglaçante ou c'est carrément gel-dégel et du vent qui te balaie ça? Là?
Ben, vous avez nommé tous les ingrédients, Mathieu, parce que si vous ajoutez le gel-dégel, regel, et qu'une poudrerie, une bourrasque, hier soir, il y a eu un bizarre à côté de chez nous. Je prends l'autobus, je descends, il n'y avait pas de bourrasque avant, il y en a une quand je sors. Alors, ça arrive spontanément. Ça veut dire que ça peut arriver n'importe quand. Quand vous avez accumulé toutes les conditions dont vous parlez, on a fermé des routes hier soir, la 117 dans la réserve faunique, la Vérandry, on a dû la fermer. Il y avait des gens qu'on est allés chercher avec de l'eau, des barres tendres, puis un convoi parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Alors, quand vous ajoutez des conditions de chaussée difficiles, quand vous ajoutez le vent, donc la visibilité, ben là, vous avez des conditions qui forcent à fermer des routes. Et c'est arrivé cette nuit en Beauce et dans la réserve faunique des Laurentides aussi.
C'est quoi la proportion du réseau routier qui est faite par des employés du ministère des Transports versus qui est fait par des sous-contractants?
Grosso modo, à l'échelle de la province, c'est 80-20. C'est-à-dire, c'est 80% des entrepreneurs qui ont des règles très, très précises à suivre, les mêmes règles que tout le monde. Alors, le 20%, ben, il varie selon les régions. À Montréal, il y a le réseau stratégique qu'on appelle, donc les grandes routes 15, 13, 40. Ça, c'est à 50% et plus assumé par les employés du ministère, nos déneigeuses. On a à peu près 1000. Si on compte toutes les déneigeuses du Québec, il y en a à peu près 1600.
Okay.
Les nôtres, les 250 du ministère et celles des contractants.
Et est-ce que ça arrive que on se rend compte qu'au bout de l'année, le sous-contractant n'a pas fait le travail? Là?
Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais évidemment, ils sont surveillés. On surveille le travail que tout le monde fait. Les entrepreneurs aussi. Tout ça est coté. Ça peut mener éventuellement à un avertissement.
Okay.
Ça peut mener aussi à une réprimande. Et tout ça est consigné dans un dossier. Et si vous accumulez trop de fautes, ben, vous tombez dans ce qu'on appelle la liste des entrepreneurs qui ne peuvent plus solliciter de contrat pour un certain temps. C'est sérieux. Ces gens-là tiennent à leur travail, alors tout le monde s'applique à bien remplir les charges.
Quand on regarde dans les bon, on le sait, là, si on est moindrement sur la route, les chasse-neige vont moins vite. Ça, c'est un fait. Ça peut être agaçant même par certains moments. Pourquoi? Il y a un limitateur de vitesse, outre le fait qu'ils ont une machinerie lourde, puis il faut qu'ils fassent le travail, puis à un moment donné, tu ne peux pas envoyer non plus de l'abrasif à 120 km à l'heure.
Oui, ouais, non, c'est un mastodonte. C'est très difficile à conduire. Moi, je suis déjà monté là-dedans
oui.
avec la pelle du devant, la pelle du côté. Il y a des caméras d'ailleurs, il y a de l'éclairage supplémentaire, il y a tout ce qu'on fait pour la visibilité parce que, première chose, ne dépassez jamais une déneigeuse, même si ça peut être tentant. Faites pas ça. C'est vraiment une mauvaise
Sur
idée.
Sur l'autoroute, ça se fait là, quand même.
Ben, si la déneige juste d'arrêter, vous pouvez toujours la dépasser. Mais elles vont moins vite, effectivement. Généralement, c'est limité à 50 km/h.
OK.
Ça, c'est la règle pour plusieurs raisons. La première, c'est que on veut pas non plus créer un effet de poudrerie qui limiterait la visibilité pour les autres usagers de la route. Mm-hmm. On veut pas non plus éclabousser les personnes qui viennent en sens inverse ou qui seraient à proximité. Et il y a aussi que l'épandage des abrasifs et des sels est optimal. Si vous allez trop vite, vous lancez le sel dans le fossé. C'est du gaspillage. Mais il faut donc avoir cette vitesse-là qui est pas très, très, très élevée, j'en conviens, mais qui fait que le travail est mieux fait, est plus sécuritaire et plus efficace.
Je sais que le sel est pas efficace en bas d'une certaine température.
Oui, moins 12.
Est-ce que les mélanges de roches qui sont utilisés, de pierres, ça a changé avec le temps? Moi, on me dit, des gens qui réparent des véhicules disent que ça a changé avec le temps, c'est sûr, parce que on répare beaucoup plus de pare-brise qu'on le faisait, exemple, il y a quelques années.
Ça dépend. On a ce qu'on appelle, nous, une charte d'épandage. C'est une science très, très précise qu'on a d'ailleurs présentée à l'Association mondiale de la route, où il y a 140 pays. Et cette charte-là qu'on a, elle est très, très précise. Elle dicte quoi mettre, dans quelle mesure, combien de kilos par kilomètre linéaire. Okay. Si vous mettez du sel, est-ce que vous mettez du sel qui est déjà mouillé? On appelle ça de la préhumidification de fondant. Des fois, on va mettre un inhibiteur de rouille pour limiter l'effet de corrosion que ces mixtures-là, cette saumure-là va faire.
Surtout pour l'équipement, ça?
Non, pour tout le monde.
Ah oui?
Pour l'équipement, mais okay. aussi une fois que c'est épandu sur la route. Il y a un moment aussi pour mettre le sel sur la route. Faut pas le mettre trop tôt, faut pas le mettre trop tard, évidemment. On a des mix, comme vous dites, à partir de moins 12, moins 15, en descendant, c'est plus froid, on peut avoir un mix 3 pour 1. C'est-à-dire qu'il va avoir un tiers de sel, deux tiers de gravier. Le gravier mélangé à du sable. Et on peut avoir un mix contraire, c'est-à-dire 3 pour 1, là, c'est-à-dire 3 fois plus de sel puis une dose okay. d'abrasif. Oui, il y a plus de gravier, oui, il y a plus de sable et il y a un mélange entre les deux qui est variable selon les conditions. Est-ce que c'est une pente? Est-ce que c'est une courbe? Est-ce que c'est un endroit qui a besoin d'être gratté jusqu'à l'asphalte parce que c'est très passant, etc.?
Est-ce que ça évolue avec le temps? T'sais, on voit, il y a eu des bancs d'essai, entre autres, avec du jus de betterave puis des choses comme celle-là.
Oui, fonctionne encore.
Ça fonctionne?
Ben, le mélange humidifiant, là,
ouais.
des fois, il y a du jus de betterave. Ça permet d'abaisser la tolérance au froid. Là, vous me parlez de développement. Ben, on a fait depuis 2013 beaucoup de tests avec des lames de chasse-neige qui sont adaptables. Des fois, ça peut être une sorte de caoutchouc. Parce que vous savez, le changement climatique, ça fait bosser un peu les routes.
Oui, le réseau, on constate que lui-même...
Gèle, que voulez-vous? On est dans un pays. C'est pas censé dégeler en janvier, mais ça arrive quand même. Alors, on vit avec. Alors, on a des lames adaptables. On a des lames à ressort aussi qui permettent de gratter ouais. encore mieux. Alors, ça, c'est en voie d'installation. Ça va devenir une règle très bientôt un peu partout. Vous allez avoir ces... capteurs dans la chaussée qui vont détecter d'avance si la chaussée est susceptible de geler.
Okay.
Vous avez ça en Beauce, entre autres, sur la 73. Oui, et là, ça va allumer les lumières qui vont avancer, c'est un signal avancé qui va dire aux automobilistes, attention, il y a un risque de chaussée glissante.
T'as un capteur vraiment dans le bitume qui est là, qui lui dit...
Oui, puis un système de caméra aussi, infrarouge, etc. C'est de la haute technologie. Et on a aussi un pont autodéglaçant.
À quel endroit?
Beauce.
Ah oui,
oui, la 73. Ça, c'est un test qui était... Ça fonctionne, mais ce n'est pas encore parfait. Alors, on s'en sert encore, mais ce n'est pas assez parfait pour qu'on applique ça partout, partout, partout. Et ça asperge au moment opportun, de façon automatique, sans intervention humaine, le produit en question, qui est un mélange d'eau, de sel et le votre jus de betterave en question.
C'est pas des fils chauffants qui sont dans le pont. Là.
Non.
C'est carrément... Un système
ça asperge. Ça vaporise.
Mais là, ça mouille le pont.
Admettons que tu es en train de rouler dessus, là, tu pourrais te retrouver avec une gicle pendant que tu es en train de rouler.
Disons que gicle est un peu fort, mais c'est une petite brume.
Une petite
brume un peu partout. Oui, puis on fait attention de ne pas en mettre trop parce qu'il y a une rivière en dessous, puis on fait attention à l'environnement. Puis on s'occupe de tout.
Ouais, merci beaucoup, M. Payet.
Bienvenue, Mathieu
Bourreau. Salut, bien. À la semaine prochaine. J'ai le Payet du MTQ qui était avec nous, 8h57. On devrait parler avec les gens de la classique hivernale. On avait un rendez-vous avec eux ce matin. En espérant pouvoir leur reparler d'ici les prochaines minutes. On poursuit cette discussion. Jean-Pierre Ferland a été l'invité de Valérie. On va en entendre l'extrait d'entrevue un petit peu plus tard. Catherine Beauchamp en direct de Berlin également. Et on se parlera de faussaires de 20 $.